Bonjour, Miles Kane, pop pop pop, pop 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 Sabati. Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'Espagne qui est à l'honneur. Et non, n'éteignez pas tout de suite, ce n'est pas Manuel Valls, notre invité. D'ailleurs, Manuel Valls, c'est la Catalogne. Enfin, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et il n'aura échappé à personne qu'il y a l'ombre d'un soupçon de nuance entre Espagne et Catalogne. Et comme mes invités du jour sont espagnols, je m'empresserai bien entendu d'ajouter que l'Espagne est infiniment plus chouette que la Catalogne, même si je disais exactement l'inverse la semaine dernière, en recevant Gérard Piquet, le mari de Shakira, qui est barcelonais. Gérard Piquet, pas Shakira, qui, elle, est colombienne et de première qualité. Bref, parce que nous recevons des Espagnols, j'ai décidé de mettre le paquet, des darle, une, un perone, et de me passer des services de nos traductrices pendant quelques instants pour m'adresser directement à eux dans leur dialecte si pittoresque. Bienvenido, Mina, Jaime y Maria. Les prometo que pasarán un buen rato en popopopo, que es un poquito la élite de la radio, como son la élite de la comedia Robén española. Abrochen los cinturones, tripulación de la aviación son comercial a sus puertas y bien vous viendrez en compañía del comandante Antonio de Coño y de la más bonita de las azafatas, Carolina Rosa. Aquí vamos.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Coño.
Hola, Mina El Amani. Hola, María Pedraza. Hola, Jaime Lorente.
Hola.
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 Bravo, tu español, bravo.
Gracias.
Bravo,
oh, menú de Pop Pop, una emisión especial España. Vamos a hablar de Miro porque se tiene actualmente una retrospectiva en el Gran Palacio de París. Vamos a hablar de Miro con el street artist The Blind. Ça sera tout à l'heure. Et tout de suite, hablamos de la série événement Netflix Elite, con una partie del casting de Casa de Papel. Elite, on a aimé et on va en parler. À mes côtés, Charline Roux. Donc, Charline, oui, c'est mieux en français. Hein.
Oui, c'est mieux en français. Bonjour, bonjour à
bonjour,
tous.
Bonjour, Charline. Mina El Amani, Jaime Lorente, Maria Pedraza. Pendant 10854 émissions, j'ai posé ici une question. Une question encore plus insoutenable qu'un ensemble des cigales. Et cette question, c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture?
Alors, pour être totalement honnête, hein, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle de l'auteur, votre compatriote, Arturo Pérez Reverte. Écoutez.
Pour moi, c'est les années 80-90 et c'est ma jeunesse.
La culture était
encore l'héritière d'autres cultures. On avait besoin à l'époque d'être un peu cultivé pour faire de la pop culture. On remettait au goût du jour, en fait, les vieilles cultures pour les remettre au goût du jour. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, n'importe quel analphabète peut faire de la culture.
Et pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, qui veut s'y coller? Maria, Mina, Jaime? Mina.
Alors, pour moi, je dirais,
la pop culture, c'est toute l'information que les gens s'approprient, le cinéma, la télé, tout ça. Et c'est une culture où, d'une certaine manière, à laquelle tout le monde a accès, hein, de manière facile.
Et
c'est quelque chose qu'on peut écouter, qu'on peut lire facilement.
Maria?
Para mí es el movimiento que las personas
le mouvement
creen o se manifiestan
auquel croient les personnes et où elles s'expriment, hein, et où elles manifestent leurs goûts, leurs émotions,
sus aspiraciones.
Ou leurs aspirations.
Jaime,
para mí la cultura pop es
pour moi cette culture pop,
la teoría de la masa,
c'est la théorie de la masse. Du peuple. Tout ce que
l'on
va écouter, vous savez, que ce soit de la musique,
théâtre,
d'ailleurs, tous
ciné,
les différents types de culture, le cinéma, le théâtre, ce qui est populaire au final.
Jaime, ça vous fait quel effet d'avoir une voix de femme en français?
Me siento muy identificado con esa voix.
Je me sens tout à fait, je m'identifie parfaitement à cette voix qui correspond totalement à la mienne.
Pop, 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 spécial Espagne.
Vous savez, moi je suis un très grand acteur, donc...
On le sait, on vous a vu dans Casa de Papel. Pop, 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 spécial Espagne, ça continue juste après le morceau de Radio Elvis, 23 minutes.
S'engage, que restera-t-il de nous à la fin du jour? Quelques garçons perdus, quelques noms sans visage. Si nos yeux fatigués se mélangent à la main, mais la vie c'est comme ça, ça passera, tu verras. S'avance, que restera-t-il de nous à la fin du jour? Laissons venir à nous ce revers de caresse. Le temps nous prendra tous nos parfums, nos ivresses. C'est la vie, c'est comme ça, ça passera, tu verras. Oh 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 oh, oh 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 oh. C'est la vie, c'est comme ça, ça passera, tu verras. La nuit qui s'avance, plus personne ne saura qui nous sommes. Et nous serons debout, sans nom et sans visage. Aucune trace à laisser, plus rien à oublier. C'est la vie, c'est comme ça, ça passera, tu verras.
Vous aimez la radio? Vous aimez Elvis? Et bien c'était Radio Elvis, 23 minutes, et c'est extrait de l'album Ces garçons-là. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission de culture qui traite la culture de façon... Non, le deuxième était mieux. Nous sommes aujourd'hui avec une partie du casting de la série Événement Élite. Mais qui sont-ils? Réponse avec leur pop portrait. Alors un pop portrait, c'est votre portrait, mais
à base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rourourourou.
Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils créent l'événement et ils seraient presque énervants s'ils n'étaient pas si talentueux. Mina El Amani a débuté très jeune en combinant théâtre et télé. Maria Pedraza, repérée sur Instagram, propulse ses premiers rôles d'Amar d'Esteban Crespo. Elle est aussi à l'affiche d'une série dont la simple évocation suffit à agiter les foules, la Casa de Papel. Ouais, je vous avais prévenu, Maria y est Alison Parker, une série qui fait crier, dans laquelle joue aussi Jaime Lorente puisqu'il est Denver.
Denver, dans la Casa de Papel?
Oui Antoine, dans cette série même. Jaime a également été primé pour sa prestation sur les planches d'Oecus. On l'a vu chez Asghar Farhadi dans Everybody Knows. Et donc après la Chicas del Cable et la Casa de Papel,
C'est relou, non? C'est un peu relou, ouais. Voici le nom de la série espagnole qu'il vous faudra désormais retenir et l'été dans laquelle nos invités sont tous excellents et du coup même pas énervants.
Vous n'êtes même pas énervant.
On est très bon, on est très bon.
Bon, continuons à faire connaissance avec votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre Mina El Amani, vous choisissez « Ainsi résonne l'écho infini des montagnes » « And the mountains echo » en anglais ou « Y las montañas hablaron » de Khaled Hosseini, sorti en mai 2013. Charline, vous qui résonnez si bien, pour une femme, dites-nous de quoi ça parle.
Misogynie cool. Dans le village de Chadbag, Abdullah a 10 ans, il veille sur sa petite sœur Paris qui elle a 3 ans, une relation très forte qui leur permet de supporter la disparition de leur mère et les absences de leur père en quête désespérée d'un travail.
Mina El Amani, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un petit extrait?
Por favor.
Por favor.
Había una vez en los tiempos en que dips, jeans y gigantes vagaban por estas tierras. Un granjero cuyo nombre era Baba Ayub vivía con su familia en una aldea llamada Maiden Saf. Como tenía una numerosa familia que alimentar, Baba Ayub se dejaba la piel trabajando, cada día, desde el alba hasta la puesta del sol. Araba sin descanso, revolvía la tierra y cavaba y se ocupaba de sus escasos pistacheros.
Mm-hmm. Je traduis. Allez, j'y vais. Il était une fois à l'époque où...
Il était une fois à l'époque où les divs et les djinns et les géants iraient sur la terre, un fermier du nom de Baba Ayub, qui habitait avec les siens dans un petit village appelé Maïdan Shabs. Parce qu'il avait une famille nombreuse à nourrir, il menait une vie de dur labeur. Chaque jour, il travaillait de l'aube jusqu'au coucher du soleil, labourant son champ, retournant et bêchant la terre, prenant soin de ses maigres pistachiers.
Pourquoi il a ce montagne à Sablaron, Mina?
Porque bueno, yo terminé de leer el libro
alors,
y
j'ai fini ce para mí fue livre et,
hablando claro una hostia en la
pour
cara.
Le dire clairement ça, ça a vraiment été une claque.
La historia habla también de dos mujeres
cette
que
histoire parle aussi
tienen
de
que vivir penumbras y que
femmes
tienen que
qui sont dans l'ombre
en un momento que
et qui doivent vraiment s'unir à un moment donné.
Yo en ese momento de mi vida tenía como esa identificación con ellas, me sentía muy
quand j'ai lu le livre, je me suis identifiée avec ces femmes, je me sentais très oppressée, très opprimée et à la fin du j'ai compris beaucoup de situations dans lesquelles se trouvaient les femmes et puis j'ai vraiment eu le sentiment que les femmes n'étaient pas seules ou qu'en tout cas il y avait la majeure partie des femmes musulmanes qui à un moment donné de leur vie s'étaient senties comme ça.
Voilà le choix de Mina El Amani pour cette pop-liste. Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. À votre tour, mon cher Jaime Lorente, pour le film, vous choisissez Cinéma Paradiso, réalisé par Giuseppe Tornatore en 88, Grand Prix du jury à Cannes en 89. Charline, vous étiez à Cannes pendant le festival 89 en landau, sur la croisette. Pouvez-vous nous raconter quand même?
À Rome, fin des années 80, Salvatore, cinéaste, vient d'apprendre la mort de son vieil ami Alfredo. Une triste nouvelle qui lui fait cependant remonter tous ses souvenirs d'enfance. Son village natal en Sicile, quand on l'appelait Toto et qu'il partageait son temps libre entre l'église et la salle de cinéma où Alfredo, projectionniste, lui apprenait la vie et le cinéma.
Toto! Ora lo dico pure un cassiere! Non devi mangiare più nemmeno del zancino, hai capito?
Alfredo! Il biglietto, devo vedere la pellicola.
Tanti altri in paese lo sanno fare, l'operatore. Solo un cretino come me lo poteva fare.
Ma perché Cinema Paradiso, Jaime?
Una razón muy sencilla.
Oh, c'est très simple.
Et fue la primera película que yo vi, me marcó.
Le premier film que j'ai vu et qui m'a vraiment touchée. J'ai senti une émotion très forte, notamment avec la relation qu'elle crée avec le cinéma, la façon dont elle l'explique cette relation. Et parce que c'est quelqu'un qui pense que l'enfance peut te sauver de tout. Ce voyage dans ses souvenirs, je trouve que c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a cette scène, lorsqu'il est en train de revoir toutes les coupures, qu'on faisait, enfin, les censures, qu'on faisait des scènes qui n'étaient pas montrables. Son visage change et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et ça met même la chair de poule.
Oui, je vois, vous avez la chair de poule. Bien, pour la série Maria Pedraza, vous choisissez 13 Reasons Why, une série Netflix qui a fait grand bruit au moment de sa sortie en mars 2017. Pourquoi, Charline, sans me faire une réponse en 13 raisons, s'il vous plaît.
Clay Jensen, un adolescent de 17 ans, reçoit une boîte qui contient 7 cassettes de la part d'une de ses amies, Anna Baker, qui s'est suicidée quelques semaines plus tôt, assortie du message suivant. Les gens qui reçoivent ces cassettes font partie des 13 raisons pour lesquelles la demoiselle s'est suicidée.
Mm-hmm. Alors, il faut m'expliquer un peu pourquoi, Maria. Pourquoi elle vous plaît tellement, cette série?
A mí, cuando la vi, sentí algo raro.
Alors, quand j'ai vu cette série, je me suis retrouvée dans un état étrange. Quand j'ai vu que Clay Jensen
ouvrait cette boîte
et écoutait tous les enregistrements, j'ai, à l'intérieur de moi, eu un sentiment très étrange. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup inspirée au moment où j'ai joué le rôle de Marina dans Élité, parce que je me suis sentie dans un sentiment partagé avec lui.
Voilà une vraie réponse. Et pour vous, je reviens à vous, Jaime Lorente, ce sont, je parle des séries toujours, Les Sopranos. Et là, je suis ravi. Hein. Série américaine de David Chase, diffusée de 99 à 2007 sur HBO. Charline, alors cette fois-ci, je vous laisse trois mots en espagnol, s'il vous plaît, pour résumer Les Sopranos.
Mafia, pasta, psychoanalista.
Alors, Jaime, pourquoi Les Sopranos plutôt que, je ne sais pas, moi, Casa de Papel, par exemple?
Los Sopranos, solo decir Los Sopranos
debería
ser
suficiente. Simplement, je dis Les Sopranos et j'ai plus rien à ajouter, non?
Vous avez les chars de poule.
Yo creo que c'est la... Es...
Carne de gallina.
Sí, totalement.
Oui, totalement, oui, c'est ça, exactement. C'est la musique, hein. À la musique, oui, la chair de poule.
Pour vous, c'est la...
Sí, sobre todo, yo creo que es la serie que marca un antes y un después.
Pour moi, c'est une série qui marque l'avant et l'après sur la façon dont on réalise une fiction.
Totalement.
Franchement,
es un hito.
Voilà, c'est un tournant. C'est la télé est devenue beaucoup plus vivante. C'est plus réel.
Y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la mafia.
J'adore tout ce qui a à voir avec la mafia.
Uno de los nuestros y Los Sopranos son mis.
Uno de los nuestros y Les Sopranos, l'un des nôtres.
Très bien. Terminons cette pop list avec la chanson Mina El Amani. Vous avez choisi ce morceau. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Oui, elle vient de le dire, c'est Feeling Good de Nina Simone. Pourquoi Nina Simone, Mina?
Nina Simone, c'est Nina Simone. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé ce genre de musique. Je crois que cette femme a une voix très personnelle. Et cette chanson m'a toujours plu parce que cette chanson, si on la met le matin, ça vous fait vous lever du lit avec envie, avec des rêves. Et pour moi, c'est une référence vraiment.
Eh ben, je vais me la jouer plus souvent alors. Je résume. Y las montanas hablaron, Cinema Paradiso, Feeling Good, 13 Reasons Why et Les Sopranos. Je mets tout ça, et Nina Simone, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Un granjero cuyo nombre era Baba Ayub vivía con su familia en una aldea. Había una vez.
Voilà, ce petit mix de pop culture qui vous résume bien, tous les trois, Maria, Mina, Jaime, vous y retrouvez là-dedans?
Me ha encantado. Estoy muy feliz.
Moi j'ai adoré ça. Ouais. C'était super bien.
Bien.
Quiero un disco.
Je veux un enregistrement. Je voudrais une copie.
Vous aurez une copie en sortant d'ici. Ghislain Fontana, tu t'en occupes?
Oui, d'accord, avec plaisir.
Bien, l'émission continue. Avant de parler de votre nouvelle série Élité, écoutons un extrait de la BO indissociable de votre autre série, La Casa de Papel.
Una matina. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, 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 una mattina, l'invasor. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e l'ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, la partigiano, oh bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellirai la cementeria. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirai la cementeria sotto l'ombra.
Mina El Amani, Maria Pedraza, Jaime Lorente, vous savez que des chanteurs français ont, comment dire, tenté de reprendre Bella Ciao et le résultat est... écoutez ce que ça donne.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato.
Bon, je voudrais juste votre réaction et s'il vous plaît, soyez sincère.
A mí me ha gustado.
Ça vous plaît, René?
Yo tengo algo que decir.
Mira, ¿sabes?
Yo, sí, es que esta canción la he escuchado porque en Marruecos estuve este verano.
Chanson,
en Marruecos esta canción la pusieron un montón. Y esta fue la que te mandé. El vídeo, ¿te acuerdas?
En serio.
Esta canción.
Yo me mandé beaucoup, beaucoup. Je l'ai envoyé.
Estaba en la página de Marruecos y le mandé el vídeo.
Hay muchas versiones, pero yo te juro que esta la había escuchado.
Hay beaucoup de versiones, pero celle-ci je l'avais jamais entendue. Elle est vraiment très particulière. Super.
Particulière. Bon, bah écoute, on va dire que c'est validé, hein? Non?
Oui, dans l'ensemble.
Oui, sur Pop, Pop, Pop. Sur France Inter, Mina El Amani, Maria Pedraza, Jaime Lorente, vous êtes tous les trois au casting de la série qui sera mise en ligne demain sur Netflix, et cette série c'est Elite, nom qui décrit parfaitement l'univers dans lequel l'intrigue est située, Las Encinas, l'école la plus compétitive et huppée d'Espagne qui accueille les enfants les plus favorisés, jusqu'au jour où, leur école ayant été détruite, Nadia, Christian et Samuel, trois enfants de la classe ouvrière, y sont redispatchés. Ce qui apparaissait comme une super opportunité s'avère en réalité un cauchemar.
Samuel. Samuel. Tengo que hacerte unas preguntas.
Mais pourquoi donc le jeune Samuel est-il en train de pleurer face à une policière qui veut l'interroger ? Jaime, vous qui êtes Nano, son frère dans la série, répondez.
Está llorando porque...
Il pleure.
Es un llorica.
C'est un pleurnichard.
No quiero hacer spoiler.
Non, je voudrais pas voir, j'étais tout spoilé.
Pero sí voy a decir algo.
Non, je veux
está
dire que il pleure.
Porque pasa una desgracia.
Il se passe un malheur.
Muy importante.
Quelque chose de très grave.
La cual es el motivo...
Et c'est la raison pour laquelle...
Central...
Enfin, c'est même
la série
tout ce qui donne, c'est le moteur de la série pendant les 8 différentes épisodes.
C'est bien, vous n'avez rien spoilé. Si je résume la série par un mystère et une lutte des classes au lycée, j'ai bon, je ne spoile rien moi-même.
No es un spoiler,
non, c'est justement ça.
Está bien dicho. Parfait,
comme résumé.
Maria, vous êtes Marina, une jeune fille issue de la bourgeoisie espagnole, mais qui a la conscience de ses privilèges et n'est pas toujours très à l'aise avec le comportement du milieu dans lequel elle vit. Un personnage assez mystérieux, une forme de nœud de l'intrigue qui va se dérouler sous nos yeux. Jusqu'où on peut aller dans ce qu'on peut en raconter de cette Marina?
Pues Marina, como bien habéis dicho,
alors, Marina,
es todo lo que habéis
dire
dicho.
Très bien, c'est tout ce que vous venez
aparte,
de décrire.
Marina es una chica
et en plus, Marina,
que es muy madura,
c'est une jeune fille qui est très mûre,
lo que le está tocando vivir,
en raison de ce qu'elle traverse.
Un poquito de tiempo
et c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de temps pour qu'on l'écoute.
Es muy pasional.
Et c'est quelqu'un de très passionné aussi.
Minavo, vous êtes Nadia, l'une des trois élèves de la classe ouvrière greffée à ce lycée d'élite très peu accueillant. Et elle se retrouve, elle, confrontée à un autre problème que celui de l'argent. Nadia porte le hijab et dès le premier épisode, la proviseure la somme de le retirer. On est assez loin des petits problèmes typiques des séries ados. C'est aussi la dimension sociale et actualité d'Élite qui vous a plu?
Sí. Me gusta, o sea, para mí es un compromiso
oui, tout
que
à fait,
hein,
c'est-à-dire je crois que j'ai eu un véritable engagement par rapport au personnage de Nadia. Je crois que c'était nécessaire que finalement on voit une véritable famille. Et quand j'ai lu le scénario, évidemment, j'ai essayé d'apporter des choses avec tout ce que j'avais pu vivre moi. Et ça m'intéressait de voir comment c'était raconté, ce qui était raconté. Et Nadia, on verra le problème qu'elle a dès le premier chapitre que vous pourrez voir. Et demain, Nadia, elle a besoin de trouver ses propres réponses. Hein. Et finalement, la question de la foi, c'est quelque chose de très, très personnel. C'était quelque chose que je voulais montrer. Et la seule chose que veut Nadia, c'est avancer. Elle veut continuer à étudier. Elle veut continuer à avoir sa bourse. La religion, c'est pas quelque chose qu'elle laisse de côté. Hein. Et elle veut également que ses parents comprennent que sortir jusqu'à 11 heures du soir, c'est pas quelque chose de mal. C'est quelqu'un qui est une ado qui a besoin de découvrir la vie.
Jaime, la série s'aventure sur des terrains plutôt adultes, à savoir la sainte trilogie meurtre, sexe et maladie. On évoquait il y a quelques instants les teen séries. Est-ce que c'en est vraiment une?
Je crois que c'est une série d'adolescentes.
Il me semble qu'effectivement, c'est une série d'adolescents, mais c'est raconté du point de vue de l'adolescent et pas de l'adulte qui comprend l'adolescent. Je ne veux pas dire que simplement elle est prévue et elle est pensée pour des gens, des adolescents. Non, c'est aussi pour des adultes et qui comprennent comment vivent les adolescents. Et je pense que c'est vraiment pour un public beaucoup plus large.
Maria, vous nous parliez tout à l'heure de 13 Reasons Why et de Clay Jensen comme une inspiration pour votre personnage de Marina. Quelles références, séries ou cinéma vous ont tous été données par votre réalisateur et les showrunners pour préparer vos rôles respectifs?
Les références de ciné ou de série que les dieron los directores para preparar.
Ninguno.
Rien.
Non,
rien.
Non, parce que tuvimos un mes et demi antes de empezar a grabar de ensayos.
Juste avant de commencer le tournage, il y avait juste un mois et demi. Et on s'est dit que tous, ils voulaient vraiment cette spontanéité.
Oui, on a travaillé à partir de nos expériences personnelles, en fait.
C'est une série chorale, hein, où chacun a une partition très précise à jouer. Pas une première pour vous, Maria et Jaime, puisque vous étiez tous deux dans une autre série chorale, faut-il le rappeler, La Casa des Papel. Oui, 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 ça va, on sait. Quel plaisir particulier y a-t-il à jouer en bande? Une question qui, évidemment, marche aussi pour vous, Mina.
Je commence moi. C'est se rendre au travail, un peu comme si c'était un moment de bonheur, de jeu, et en plus, on te paye.
Non,
non, non, c'est vrai qu'il se crée vraiment des liens, on a tous confiance avec les autres, l'ambiance est très relaxe, c'est vrai qu'on s'engage tous à fond dans le travail, on connaît les points faibles des uns et des autres, et c'est vrai qu'on peut soutenir, on peut s'entraider, c'est vraiment un cadeau.
Maria?
Tout ce qu'il vient de dire, en fait, hein, Jaime, j'ai rien à rajouter.
Mina?
Pour
moi, évidemment, c'est un plaisir de partager des tournages avec des acteurs comme ça. J'avais très, très envie de travailler avec Jaime parce que c'était quelqu'un que je connaissais avant. Hein. On avait partagé beaucoup de moments dans le tournage. On n'a pas forcément beaucoup de scènes ensemble, mais en tout cas, tout ça, ça a été un grand plaisir.
La série Élite a une construction très particulière. On fait de constants allers-retours dans le temps. Est-ce que vous aviez, vous, une trame linéaire ou est-ce que vous avez découvert le mystère de la série au fur et à mesure du tournage?
Si, totalement.
Oui, tout à fait.
Nosotros, en fait, el trabajo ha sido
le travail a été réalisé de la façon tout à fait chronologique.
Y después, ya
et après, c'est vrai qu'au montage, voilà, on a un peu saoulé tout le monde en mélangeant tout.
D'accord, donc le tournage a été chronologique. Vous avez tout fait dans l'ordre.
Si, la,
oui.
La émission du chapitre,
non? Non, alors l'épisode, non. Après, sur l'épisode, il y a des mélanges, des allers-retours.
Jaime Lorente, Maria Pedraza, je ne peux évidemment pas vous laisser repartir sans tenter de glaner quelques infos sur les avenirs respectifs de Denver et Alison Parker dans la saison 3 de Casa de Papel. Oui, on sait, on a compris.
Eso responde Jaime Lorente.
C'est encore Jaime Lorente qui va répondre.
Queréis informations sur la
troisième? Vous voulez les informations sur la troisième saison?
Oui.
¿Cuánto me ofreces?
Combien tu me donnes?
J'ai du liquide sur
de
moi.
De la nourriture. On a de très bonnes adresses de restaurants.
non, estamos... bueno, está confirmada, la
bon,
vamos
ça a été confirmé, on va la tourner, cette troisième saison, mais je n'ai rien, j'ai même pas lu le scénario, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'ai vraiment très envie, j'ai parlé avec les scénaristes et ils m'ont dit qu'ils sont en train de créer quelque chose de très très bien et que ça va être énorme et que ça n'a rien à voir. Mais je n'ai pas d'informations.
Juste pour mon plaisir personnel, pourriez me refaire le rire de Denver? Encore un peu.
Bourgmas.
On a plein de croissants.
Bon, merci. Merci à tous les trois. Elite, et ce sera disponible demain soir sur Netflix. Et puisque vous savez tout faire, lequel de vous trois sait faire ça?
Moi, je le fais très mal.
Non.
Oh là.
Ah.
Maria.
Alors. Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal.
Non.
Pas mal. Pas mal. Si, non. Bon, c'est très bien. De toute façon, c'était pour lancer les Pop News. Merci d'être venu.
Nouvelle transformation spectaculaire pour le comédien Christian Bale, puisque dans le nouveau film d'Adam McKay, il sera Dick Cheney, 46e vice-président des États-Unis sous l'ère George W. Bush, qui lui sera incarné par Sam Rockwell. Le film s'appelle Vice et s'attachera à raconter comment Cheney, un homme discret, est devenu l'homme le plus puissant du pays et comment il a largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore un peu les conséquences aujourd'hui. Extrait de dialogue entre le président et son VP dans la bande-annonce.
I want you to be my VP. I want you. You're my vice.
Well, George, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy.
Yeah, right. I like that.
Vice avec Christian Bale, Sam Rockwell, mais aussi Amy Adams et Steve Carell. Ça a l'air carrément dément et c'est bientôt sur les écrans.
Attention, annonce royale de la plus haute importance! Apparu hier sur le compte Twitter Kaamelott officiel, le message suivant. Le premier tweet du compte officiel de Kaamelott. On a beau dire, ça fait un petit quelque chose. Bise. A, soit Alexandre Astier. Un tweet concis de Sa Majesté, mais assorti d'un lien vers un site officiel, lui aussi, sur lequel on peut voir une mystérieuse photo noir et blanc sur laquelle il me semble distinguer un texte ancien gravé sur une roche, autant d'indices cryptiques qui nous font dire que ça annonce peut-être enfin le tournage du film. Il serait temps, non?
Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros.
Ouais, enfin, moi je sais.
La reprise du jour, c'est au Red Hot Chili Peppers qu'on la doit. Les Californiens se sont produits à Los Angeles et se sont livrés à une reprise que je qualifierais de périlleuse, puisqu'il s'agit du Ramblin' Man des Allman Brothers, mais je vous laisse juger. Un avis, Antoine? Non,
formidable.
Aucun. Les Red Hot Chili Peppers devraient bientôt retourner en studio pour donner un successeur à The Gateway, sorti en 2016.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Si, c'est moi.
Si, c'est moi.
Si, c'est moi. Si, Seigneur, c'est moi. C'est moi, Antonio Decaune. Merci.
Merci, Charline. Avant d'accueillir.
Denada.
Avant d'accueillir le street artist The Blind pour parler de la rétrospective Miro, on écoute Mano Negra avec le morceau Malavida.
Soleil. We'll be right back.
cuando tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando.
Me estás dando
mala vida.
Cádiz se la trae mi corazón.
Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando.
La vida, la Mano Negra, c'était en 1988. Vous écoutez Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et vient de nous rejoindre dans ce Pop Pop spécial Espagne, le street artiste The Blind, pour parler de la rétrospective Miro, qui se tient actuellement au Grand Palais à Paris, jusqu'au 4 février prochain, et qui, curieusement, n'est pas parrainé par Alain Afflelou. Bonjour, The Blind.
Bonjour.
The Blind, l'aveugle, pour parler des œuvres de Miro, c'est quand même étrange, non?
C'est ça.
Vous aimez les films de Lelouch aussi?
Oh,
non. D'où vous vient ce pseudo The Blind?
Il vient tout simplement que je voulais parler des aveugles et comme je suis un pro de la langue anglaise, mm-hmm. J'ai mis The Blind alors que je parle pas du tout anglais, quoi.
Pourquoi est-ce que vous vouliez parler des aveugles?
C'est du fait que je fasse du graffiti depuis plus de 15 ans et je trouvais ça intéressant de montrer du graffiti à des personnes aveugles. Mmh. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Le graffiti, c'est un art visuel et faire un art visuel pour des aveugles, c'est comme faire de la musique pour les sourds.
C'est pour ça que vous vous définissez comme artiviste.
Artiviste, ouais, exactement. Le mot
street artiste. Il y a un engagement derrière les œuvres que vous proposez.
Ouais, exactement. C'est vraiment un engagement et c'est aussi pour donner l'accès à la culture à tous et entre autres aux personnes qui ne voient pas et aussi aux personnes qui voient mal.
Donc on dit pas street artiste vous concernant.
Moi j'aime pas du tout ce mot valise. Pour moi c'est le marché de l'art qui donne ces mots-là et artivisme c'est vraiment le fait de faire des actions dans la rue avec du fond et pas juste de l'esthétisme.
Très bien. Vous avez appris l'alphabet braille, The Blind, et vous réalisez des œuvres géantes en braille, donc, que vous disséminez un peu partout dans le monde, aux États-Unis, à Vienne, à Budapest, à Venise, dans les catacombes de Paris, etc. Vous aimez qu'on vous touche, en fait?
J'adore ça. Caressez-moi.
Non, mais c'est pour ça que vous avez. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de faire ces œuvres en braille géant? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
C'est le fait, en fait, par exemple, à la Fondation May, quand j'étais gamin, j'ai touché un tableau dans ce grand musée et je me suis fait virer et j'ai trouvé ça un peu dommage de me faire virer alors que c'était un tableau où il y avait de la matière. Mmh. Et de suite à ça, je me suis dit, je vais casser tous ces codes. Et
donc voilà. La vocation est née d'un trauma de sortie scolaire, en fait.
Clairement. Et de voir les fesses de mes jeunes camarades par la vitre du musée de la Fondation May, je m'en rappellerai toute ma vie.
Ceci étant, il est normal de ne pas toucher les œuvres qui ne sont pas dédiées à ça.
C'est vrai, mais par exemple, quand on voit Brancusi qui avait fait une statue liée, qui était faite pour toucher aux aveugles, elle a été bah, ça a été interdit de la toucher alors que c'était fait pour ça, c'est un peu bizarre.
Et alors, est-ce que votre travail touche particulièrement les aveugles, ou plutôt, comme on dit aujourd'hui, les non-voyants, dont certains d'ailleurs nous écoutent en étant persuadés d'être sur RTL?
Répétez votre question, parce que j'ai plus rigolé à votre blague.
Est-ce que ça touche aussi les aveugles, votre travail?
Vraiment, oui. Là, y a des personnes qui lisent même les surimpressions en sérigraphie sur mes photos, et ainsi que le braille. Mais il y a des personnes aveugles aujourd'hui qui ne lisent pas du tout le braille, parce que maintenant, avec la nouvelle technologie, les smartphones, le braille commence à un peu être de moins en moins courant. Mais oui, c'est lisible par des personnes aveugles et braillistes.
Mais alors, sur quels critères vous choisissez les endroits où vous allez vous installer, on va dire?
Ça va être des lieux soit symboliques de la ville, genre par exemple à Nantes, le palais de justice de Jean Nouvel, où j'ai écrit « Pas vu, pas pris » en dessous la typographie « Palais de justice ».
C'est malin.
Et en fait, ce braille est resté plus de 2 ans, il pensait que c'était une traduction du mot « palais de justice ». Comme la Tour Eiffel, vu et revu. Voilà, j'ai toujours des jeux de mots dans les catacombes, me brailler du noir.
Alors on va aussi parler de cette expo Miro là qui est ouverte depuis hier au Grand Palais de Paris. Pourquoi êtes-vous tant fasciné par Miro, et est-ce que c'est réciproque?
Après, fasciné, je dirais pas ça, mais en tout cas intéressé par son travail. Et en fait, j'ai fait une peinture à Grenoble sur ce thème-là, et où j'ai repris un tableau de Miro et j'ai écrit « Être Miro ». Parce que je trouvais ça intéressant de faire du graffiti pour aveugles avec, en référence à Miro, avec toutes les couleurs qu'il utilise. Et en braille, j'ai écrit « Aveuglé par la couleur », justement. Et donc, c'est un jeu comme ça, d'ouvrir les yeux sur l'art en général. Et donc, je peux faire autant un clin d'œil à Miro qu'un clin d'œil à Picasso. Voilà, c'est toujours des clins d'œil.
Quand Pop 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 vous a appelé pour vous inviter dans l'émission, vous avez répondu « Cela me touche de parler des grands maîtres de la peinture qui influencent encore aujourd'hui l'art, dont le street art ». Bon, alors peut-être pas avec ma voix à moi, mais c'est ce que vous avez dit. Comment Miro influence-t-il le street art, ou en tous les cas l'art qu'on voit dans la rue aujourd'hui, selon vous?
Je pense que Miro, déjà, il a un peu cassé tous les codes à son époque, et il y a un lâcher-prise où vraiment son trait, on peut le comparer avec quelqu'un qui fait du tag, par exemple, qui a un lâcher de peinture. On voit qu'il a utilisé aussi plein de médiums différents, du collage, il pouvait faire aussi de la sculpture, qu'il pouvait faire des murs. Voilà, maintenant, dans le street art d'aujourd'hui, on peut voir des personnes qui collent des affiches, mais aussi font des sculptures pour des foires, comme là, à Drôle, à District 13, la semaine dernière.
Vous parliez il y a quelques instants de votre œuvre « Être Miro », que vous avez créée dans le cadre de l'édition 2017 du Grenoble Street Art Festival, qui est toujours d'ailleurs visible à Grenoble. Est-ce que vous pourriez décrire « Être Miro » pour les auditeurs qui ne la voient pas par la force des choses, puisqu'on est à la radio?
C'est assez simple. Ça a été donc repris d'une œuvre de Miro, où j'ai utilisé tous ses codes à lui, ses traits un peu naïfs, enfantins, lâchés, un peu comme entre guillemets du gribouillage d'enfant, plein de couleurs, des taches de couleurs. Et à l'intérieur de cette composition graphique, j'ai rajouté une typographie qui est écrit « Être Miro ». Et voilà, j'ai utilisé vraiment ces codes. C'est un exercice de reprendre le travail de quelqu'un dont là il y a une rétrospective en plus. C'est un exercice.
Vous en attendez quoi de cette rétrospective? Vous allez y faire un tour?
Je vais aller voir clairement, et je vais découvrir encore des choses, et je pense que les personnes qui font le commissariat de cette exposition connaissent très très bien Miro, et donc son travail aussi, et j'ai hâte d'aller voir cette exposition.
Juste en deux mots, en quoi Miro est-il un artiste très important du XXe siècle?
Déjà par les influences qu'il a pu donner à d'autres peintres, déjà je pense de son époque et aussi aujourd'hui. Et il était aussi dans le groupe de bah, Picasso, André Breton. Il était avec plein de gens de voilà qui sont présents dans l'histoire de l'art. Moi, ayant fait une école d'art, c'est des choses que j'ai pu lire dans tous mes livres d'histoire de l'art.
Mais dites-moi, quand vous allez dans les musées ou voir des rétros comme ça, est-ce que c'est pas un peu comme les gens qui sont interdits de casino? Est-ce qu'il n'y a pas votre tête à l'entrée? C'est le type qui vient et qui touche à tout, en fait.
Bah, j'essaie de faire ça discrètement.
Vous êtes à repérer.
J'essaie de faire ça discrètement.
Mais sérieusement, vous essayez encore de toucher un peu le...
Ah, toujours.
Là, par exemple, l'expo au Grand Palais, vous allez essayer de toucher des œuvres de Miro?
Bah, s'il y a l'intérêt, ouais. Mais j'aime de toute façon le goût du risque et je fais du graffiti, donc se faire virer, se faire arrêter, ça fait partie de ma vie de tous les jours.
Vous savez que c'est un nom dans le métro, ça.
Ouais.
Quelle émotion vous ressentez quand vous touchez des œuvres d'art?
Bah souvent, en fait, par exemple, c'est une phrase que je dis souvent par rapport à mon travail, c'est « touche l'art et l'art te touchera ». Et il y a vraiment cette chose-là, si on a envie de toucher la peinture, c'est qu'il y a une certaine sensibilité déjà qu'elle dégage par...
Une sensualité.
Ouais, sensualité, ouais. Et voilà, ça ouvre les différents sens. Et à un moment donné, tu craques les règles, tu les oublies et tu touches pour voir si c'est vrai, si comment c'est fait.
Le son a son importance aussi. Il y a ce que vous appelez des œuvres sonores. Vous pouvez nous en dire deux mots.
Ouais, là, en ce moment, il y a une expo à Trampolino à Nantes où je m'amuse avec un collègue Guillaume Baptista Pina à faire des sérigraphies sonores. Ou sonore et tactile. Donc, en gros, l'idée, c'est que j'ai été enregistrer des sons avec Brice. On a enregistré des sons dans le métro parisien et on les a donc récoltés. Et après, grâce au système de la sérigraphie, j'ai créé des affiches sur lesquelles, en touchant, on peut entendre du son du métro parisien sans voir du graffiti, sans voir un métro, mais tout ça en prenant des empreintes du métro parisien, voilà.
On a un exemple de ce que ça donne, écoutez. Vous devriez faire la radio, en fait.
J'ai plein de copains qui font de la radio, donc je sais ce que c'est un peu la radio.
Est-ce qu'il vous arrive de rester pour regarder les réactions que suscitent vos œuvres, planquées dans un coin, et de regarder comment les gens réagissent au toucher ou en entendant?
Ouais, j'adore être aussi le voyeur, là, pour le coup, être derrière à guetter les réactions. J'adore parce que des fois, ça fait rire. Parce que, par exemple, quand on touche un bras et que c'est écrit « ne pas toucher », ça fait rire direct. Et après, il y a des enfants qui vont dire « maman, ça, c'est du braille ». Et d'autres, ils vont dire « c'est une langue », alors que c'est une écriture. Et voilà, j'écoute tout ça et en fait, ça m'enrichit et ça me donne envie aussi de continuer à faire des blagues. Et je trouve qu'avec l'humour, on peut faire passer plein de beaux messages des fois, c'est moins drôle, mais en tout cas, on essaye.
Bien. Merci The Blind. La rétrospective Miro, c'est au Grand Palais à Paris jusqu'au 4 février prochain. Réduction évidemment à la caisse pour les non-voyants. The Blind, il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission. J'y vais. Henri, viens voir. J'ai un cadeau pour toi. Viens, ramène-toi. Ramène-toi. Viens là, mon cochon. Voilà. Tiens, regarde. Je te présente Enrico. Enrico, c'est le cochon ibérique que m'ont laissé les trois espingouins. Eh oui. Henri, Enrico, Enrico, Henri. Quoi? Comment ça, il a une voix de merde? T'es jaloux parce qu'il mange que des glands, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Enrico? Lui aussi, il mange que des glands, mais pas ceux du chêne? Du calme là, sinon je vous le dis tout de suite les gars, il y en a un des deux qui va finir en boudin, hein. Bon allez, on va retrouver un petit peu de bonne humeur, on sourit et une bonne petite musique, il y a du Dire Straits de derrière les fagots. Allez, c'est parti. Henri, écoute moi je suis sérieux là, tu continues comme ça, tu passeras pas l'hiver, d'accord? Ta gueule, t'inquiète pas Enrico, tout va bien. Walk of Life, un morceau de Dire Straits dans Pop 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 sur France Inter. C'était en 85, ça, le morceau, hein, pas l'émission. Chanson que vous connaissez par cœur, Charline Roux, si j'en crois, votre voisine du dessus.
Ouhou.
Voilà. Ouhou. The Blind, je ne sais pas si vous le savez, sinon je vous l'apprends. J'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous laisser symboliquement ici, dans ma cave?
Un teckel chien guide.
Un teckel chien guide, ah bah ça me manquait justement. Très bien, je garde. Merci The Blind, vous exposez en ce moment et jusqu'au 12 octobre à la galerie Trampolino à Nantes. On peut également suivre vos aventures sur votre compte Facebook, il n'y a rien à voir, évidemment quand on s'appelle The Blind. Et j'en profite donc pour rappeler que la rétrospective Miro, c'est au Grand Palais depuis hier et jusqu'au 4 février. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Ronan Mahé, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Resta, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, eux. Les Lemon Twigs, enfin un Lemon Twig, car l'autre est souffrant, et aussi le génial musicien Fred Palem. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos Miro sur YouTube... Attendez, c'est écrit trop petit là. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Bon, abonnez-vous à... Non, je vois pas du tout.
C'est pas Miro, c'est Presbyte, ça s'appelle.
Podcast, oui. Attendez, ah ça y est, voilà. C'est ça, abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.